grand dialogue
sigi ka foba
edowani wa maqaran
le grand dialogue l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio
chenne biro
halud mawni
chenne biri sigi ka foba
le grand dialogue
le grand dialogue.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes mercredi 24 septembre 2014. Bienvenue au Grand Dialogue qui parle ce soir du regain de violence dans le nord du Mali. Et nous parlerons du cas spécifique de la ville d'Aguelhok. Voici les trois axes de cette émission. Une thématique et trois questions. Les villes incontrôlables du Nord. Le mandat de la MINUSMA est-il compatible avec la situation actuelle qui sévit dans le Nord? Comment rétablir la sécurité dans les villes du Nord? Pour débattre de ces questions, Sidi Ouldo Bagna, président de la jeunesse arabe du Mali, Ousmane Cornio, spécialiste des crises et conflits, Abdel Nasser Garboa, journaliste tchadien, spécialiste du Sahel qui intervient depuis N'Djamena. Je suis Famoussa Sitibé, Salim Djouara est à la technique. Le Tchad a dénoncé le traitement discriminatoire réservé à ses troupes au Mali, accusant la MINUSMA de les utiliser comme boucliers. Cette déclaration a suivi la mort de 10 de ses soldats en 3 semaines dans le nord du pays. Les questions qu'on se pose aujourd'hui sont: est-ce que la MINUSMA peut mieux faire dans le cadre de la protection de ses troupes? Est-ce que son mandat lui permet d'aller plus loin que ce qu'elle fait actuellement au Mali? Nous allons tenter de comprendre tout cela en 45 minutes. Mais tout d'abord, le premier volet de cette émission, les villes incontrôlables du Nord. Pourquoi jusque-là, certaines villes restent incontrôlables dans le Nord? Ousmane Cornio, vous qui venez de boucler une visite dans le Nord.
Merci beaucoup. Je crois que dire qu'il y a des villes incontrôlables, il y a les villes qui ne sont pas sous contrôle. Pas qu'elles ne sont pas contrôlables, ce sont des villes qui n'ont pas été encore maîtrisées, pas seulement par l'armée malienne, mais même par les forces alliées. Et quand on parle d'Aguelhok, il y a bien sûr un camp de l'aménagement d'Aguelhok, mais ce camp est en dehors de la ville. Et ce camp, il est isolé. Quand on connaît la position d'Aguelhok, Aguelhok est une ville carrément isolée, et c'est la ville qui est la plus proche du fief des narcotrafiquants. Elle est isolée et son parcours, sa distance...
Quel est le fief des narcotrafiquants?
Oui, tout le monde sait que les narcotrafiquants, c'est la région de Tombouctou. Or, si on voit bien la position d'Aguelhok, Aguelhok est la zone qui non seulement fait frontière avec la région de Tombouctou, mais aussi se prolonge vers la frontière avec la Mauritanie, vers le Tamasland. Donc, en fait... La distance entre Aguelhok et Kidal, la distance entre Aguelhok et Abébara sont très grandes et elles ne sont pas occupées, qui fait que même si par exemple un convoi quittait Aguelhok avant d'arriver à Kidal, les gens savaient tout le temps de pouvoir opérer, de pouvoir poser des bombes et agir et sans que personne d'autre les voie. Bon, autre ville comme Menaka, on sait aussi que Menaka n'est pas sous contrôle. Le camp militaire en dehors de la ville, qui fait que toute la zone là est à la merci des occupants. Qui fait que l'AMINUSMA, de par sa position, en dehors de l'armée malienne qui est cantonnée à Menaka et qui n'existe même pas à Aguelhok, se trouve à la merci des combattants.
Alors, Sidi Ouldo Bagna, vous êtes président de la jeunesse arabe du Mali. Quelle lecture est-ce que vous avez aujourd'hui de la situation qui prévaut dans le Nord?
Bon, je m'en vais me poser la même question que vous avez posée
à M. Cornio.
Donc, je crois qu'aujourd'hui, quand on veut faire un état de lieu, pour dire qu'aujourd'hui, peut-être seulement Aguelhok peut être la partie visible qui n'est pas sous contrôle, mais je me pose la question, dans les régions du Nord, quelle est la ville réellement contrôlée? Quand des terroristes arrivent jusqu'à Tombouctouville, ils enlèvent qui ils veulent, et ils rendent des comptes à des populations civiles dans les grandes villes, les amener hors de la ville, faire d'eux ce qu'ils veulent. Moi, je me pose la question, aujourd'hui, je me dis que aucune localité des régions du Nord n'est sous contrôle, ni de l'AMINUSMA, ni de l'armée, parce que je connais profondément le nord du Mali. Et aujourd'hui, je me pose la question, quelle est la localité? Quand on voit juste, vous l'avez signalé dans le journal que j'ai écouté tout de suite, quand des islamistes arrivent jusqu'à Zouaira, pour enlever, pas à Zouaira, mais à côté de Tombouctou, enlever 5 citoyens de Kalantsar, qui sont une tribu des Touaregs, mais toujours fidèles à l'État, qui payent malheureusement le prix d'avoir toujours été avec l'État, et qui peut être pourchassé comme peut-être des informateurs pour la MINUSMA et Serval,
l'armée française.
Et l'armée française, qui a été décapitée. La tête a été jetée à Zouaira, et le corps a été ébranlé, a été attaché,
exposé
sur le château d'eau, à une foire. Qu'est-ce que ça veut dire?
Donc, est-ce qu'on peut... Il y a aussi une guerre psychologique.
Et dans cette zone, je vous dis, c'est une zone où le Serval prend sa provision parce qu'il y a un petit marché là-bas. Donc, quand je me pose la question aujourd'hui, je me dis qu'aucune localité n'est sous contrôle, ni de l'aménagement, ni de Serval, et ni de l'armée malienne.
Alors, nous avons également en ligne Abdel Nasser Garboa, journaliste tchadien spécialiste du Sahel. Monsieur Garboa, bonsoir. Alors, vous intervenez dans ce débat depuis le Tchad. J'espère que vous avez entendu, suivi tout ce que nous avons dit depuis le début de cette émission. Alors, vous êtes au Tchad. Quelle est la vision des Tchadiens avant leur arrivée ici au Mali et après les soldats décédés ici sur le sol malien? Est-ce que la vision des Tchadiens sur le conflit malien a changé depuis leur arrivé? Monsieur Garboa, est-ce que vous m'entendez? Abdel Nasser Garboa, est-ce que vous êtes avec nous? Alors, nous allons tenter de rappeler Monsieur Garboa. Je rappelle qu'il est journaliste. Il intervient depuis le Tchad. Son avis compte beaucoup pour mieux comprendre le sentiment qui prévaut aujourd'hui en N'Djamena dans le cadre de la présence des troupes tchadiennes aux côtés de la MINUSMA dans le Nord. Alors, la MINUSMA peut-elle faire mieux que ce qu'elle fait déjà, Ousmane Kornio?
Oui, je crois qu'avant de répondre à cette question, je suis quand même un Malien tchadien pour avoir séjourné 17 ans dans cette zone. Et je connais bien le Tchad et je suis en contact avec les Tchadiens pendant toute la crise. J'ai été fier quand les Tchadiens sont arrivés et ce qu'ils ont fait au Nord. Et mes amis qui sont restés au Tchad continuent à m'appeler toujours par rapport à la position, par rapport à la position même de la population. Mais je vous assure que depuis ces derniers temps, la position a changé. Et je crois aujourd'hui sous la poussée de la population, du politique, surtout de l'opposition, et même le gouvernement risque de changer sa position par rapport à la position de l'armée ici. Bon, moi, de mon point de vue, cette position-là, il fallait s'y attendre parce qu'ils ont été quand même, ils se sont fait distinguer pendant la lutte contre les occupants, et je suis sûr que c'est ça qu'ils sont en train de payer. Et puis ensuite, ça on le verra par rapport à la position de la MINUSMA. C'est-à-dire que la position de la MINUSMA n'est pas très très complète, de mon point de vue sécuritaire. Parce qu'en fait, il fallait s'y attendre que dans de tels conflits, il y a des actions asymétriques qui sont prévues. Des poses de bombes, d'explosifs, d'attaques. Donc, des mesures de protection de ce domaine, de déminage, de renseignements devraient accompagner le cantonnement. Parce que moi, je dis qu'aujourd'hui, la MINUSMA est cantonnée. Elle est cantonnée à Guélok, elle est cantonnée à Tessalit, elle est cantonnée à Menaka. Mais ils ne sont pas venus pour se faire cantonner. Ils sont venus pour assurer la sécurité des populations en dehors de leurs lieux où ils sont cantonnés. Or, ces déplacements-là nécessitent de suivre des parcours qui sont connus. Là-bas, là, on ne part pas n'importe où, toutes les routes sont connues. Donc, la surveillance de ces pistes, le déminage et tous les renseignements qui entourent, je ne pense pas que la MINUSMA ait pris ses dispositions pour avoir le déplacement.
Alors, nous avons retrouvé Abdel Nasser Garboa. Vous êtes journaliste tchadien, également spécialiste du Sahel. Bonjour. Voilà. Je demandais tout à l'heure si le sentiment des Tchadiens avait changé depuis ces nombreux morts au Mali.
Mais écoutez, le sentiment des Tchadiens a changé, je ne sais pas, changé par rapport à quoi. Mais les Tchadiens quand même éprouvent quand même un sentiment de désolation. Et par rapport donc au décès de leurs compatriotes qui s'est accusé, tout que ces décès sont dus au fait de mines. Et ces mines sont placées donc sur leur chemin. Cela veut dire pour des gens comme nous qui connaissons bien la problématique du Sahel, qui connaissons bien la problématique donc des combats dans le désert, ce sont des personnes qui sont au mouvement. Et donc, ça veut dire que c'est des gens qui, s'ils ne sont pas des locaux, c'est qu'ils ont une très très forte complicité locale. Et donc, en fait, c'est cette raison qui m'amène à votre question initiale qui était de pourquoi les villes maliennes ne sont pas contrôlables. En fait, moi, je dis, c'est pas que les villes maliennes ne sont pas contrôlables, c'est que les villes du Nord, en fait, hein, parce que je me reprends, hein. C'est les villes du Nord Mali, ces deux villes de l'extrême Nord Mali qui ne sont pas contrôlables, hein, ne sont pas arrêtées, ce n'est pas le problème de que ces villes ne sont pas contrôlables, mais est-ce que ces villes-là, on veut les contrôler en réalité? C'est ça la vraie question. Et moi, je me rappelle des premières heures, quand nous avons quitté Menaka pour aller à Kigali, avec nos forces, pour la première fois quand on s'est déployé.
Pour la libération.
Nous avons été baladés environ... Oui. Après la libération de Menaka, on a mis le cap sur Kidal avec nos forces. Et à la tête donc du convoi, on avait quelques soldats des forces spéciales françaises qui faisaient le lien avec Serval. Parce que comme cette zone est bombardée par Serval, il faudrait qu'il y ait des appuis au sol pour indiquer la direction à suivre et également faire les relations avec Serval. Or, quand nous sommes arrivés aux environs de Kidal, on a perdu à peu près 70 heures dans le désert, dans la tempête du sable, parce qu'en réalité, on a compris plus tard, les forces spéciales françaises ne voulaient pas qu'on entre à Kidal pour la seule raison qu'elles voulaient plutôt que les menaces s'installent avant que nous ne venions. Et à un moment, le commandant en chef donc, des forces tchadiennes a dit non, on ne peut pas tourner comme ça dans les déserts parce que ça fatigue nos troupes. Et comme Kidal, nous avons tous des effets, on peut compter sur Kidal, on n'a pas besoin de vous pour Kidal.
Donc vous estimez aujourd'hui que le Tchad s'est senti quelque peu trahi ou bien désorienté par rapport à l'objectif initial?
À mon avis, je ne parle pas au nom du Tchad, moi. Moi, je parle à mon avis, en tant que journaliste, selon ce que j'ai vu, il y avait une complicité initiale des Français avec les MNLA qui a fait en sorte que les MNLA puissent être en transfert. Parce que dès les premiers jours, je pense que si on avait donné nos mandats clairs à nos soldats de désarmer les MNLA, ils vont les désarmer. Comment se fait-il qu'on laisse dans la ville de Kidal des rebelles, parce que pour moi, les MNLA, c'est des rebelles, passer des accords, accords entre guillemets, hein, avec des forces qui sont régulières. Parce que lorsqu'après avoir tempêté, on nous a permis enfin d'entrer à Kidal, la première opération qui a été faite, c'est de nous réunir dans les camps où se trouvaient les forces françaises et de signer un gentleman agreement avec les gardes et les MNLA. Comme quoi, et ils vont rester dans leur coin, nous on va rester dans notre coin, personne ne va attaquer l'autre. pour nos soldats, c'était très gênant.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Abdel Nasser Garboua. Vous restez avec nous. Nous allons observer juste quelques secondes de pause. Ensuite, nous allons poursuivre avec la deuxième partie du débat.
Vous écoutez Studio Tamani. Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Restez donc avec nous et restez branchés sur nos 20 stations partenaires où que vous soyez au Mali. Et jetez également un œil sur notre site web www.studiotamani.org. Vous êtes donc dans la deuxième partie du Grand Dialogue qui parle du regain de tension dans le Nord avec la spécificité aujourd'hui d'Aguelhok. Cette deuxième partie sera consacrée au mandat de la MINUSMA. Est-ce que ce mandat est compatible aujourd'hui avec la situation qui prévaut dans le Nord? Nous avons comme invité Sidi Ouldo Bagna, président de la jeunesse arabe du Mali, Ousmane Cornio, spécialiste des crises et conflits, Abdel Nasser Garboua, journaliste tchadien, spécialiste du Sahel qui intervient depuis le Tchad. Juste avant d'entamer cette deuxième partie, nous allons demander à Ousmane Cornio si aujourd'hui la MINUSMA... Voilà, si la MINUSMA aujourd'hui perdait le soutien du Tchad, elle pourrait trouver quel genre de soutien pour remplacer les troupes tchadiennes au nord, Ousmane Cornio?
Oui, moi je crois que ce n'est pas les troupes qui manquent. Moi personnellement, comme le journaliste l'a dit, je parle à mon propre compte, moi je crois que la MINUSMA aurait pu même être plus opérationnel sans le Tchad. D'autant plus que le Tchad a participé à la libération et s'est fait remarquer. Et donc a développé chez l'adversaire une volonté de revanche. Donc les attaques sont des attaques ciblées. Ce n'est pas dû seulement à Guelok. Les Tchadiens se trouveraient n'importe
où. Vous pensez que c'est une riposte aujourd'hui faite aux Tchadiens?
Aux Tchadiens. Et qui fait que on aurait même peut-être envoyé d'autres troupes dans ces zones-là que les Tchadiens. Peut-être qu'on n'aurait pas assisté à ceux auxquels on assiste aujourd'hui.
Est-ce que vous êtes d'avis, Sidi Ould Bagna?
Oui et non. Parce que moi, je crois que le Tchad, qui a une très grande expérience dans le Sahel et qui partage à peu près les mêmes conditions de vie que le nord du Mali, mais je crois qu'aujourd'hui, le Tchad est en train de payer une monnaie parce que je crois que c'est, le Tchad est venu plus au nom de la France qu'au nom du Mali. Et que, n'oublions pas que c'est quand même la France qui a soutenu Idriss Déby Itno pour faire partir d'abord celui qu'on appelle... le génocidaire qui se trouve au Sénégal.
Doit-on remonter jusqu'à
voilà,
ça
voilà, à cette voilà époque c'est pour dire qu'aujourd'hui, le Tchad, pas le Tchad, mais Idrissa Déby Itno est redevable à la France. Et tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est que dans des conditions les plus difficiles de travail, moi je crois que c'est les Tchadiens qui sont exposés. Moi, j'aurais bien voulu que les Français se mettent en lieu et place du Tchad pour voir ce que ça veut dire. Parce que les Tchadiens ne peuvent pas être, comme ils l'ont dit, boucliers de la MINUSMA et de Serval qui se promènent pour d'autres calculs et en laissant dans des zones infréquentables, difficiles d'y accès. On pousse le Tchad à aller se mettre... Dans la gueule du loup.
Est-ce que si le Tchad ne se retirait aujourd'hui, quelles seraient les conséquences?
Aujourd'hui, si le Tchad se retire, c'est le fiasco. C'est le fiasco parce que aujourd'hui, le Tchad est en train de faire un travail extraordinaire qui connaît réellement et qui résiste à notre climat dans le Nord. D'abord, il faut saluer vraiment tous les soldats qui sont tombés. Pour le retour de la paix et la stabilité au Mali, mais les militaires tchadiens payent vraiment le prix des politiques.
Alors aujourd'hui, nous parlons, juste avant de vous donner la parole, Ousmane Cornio, je vais de poser cette question à Abdel Nasser Garboua, journaliste tchadien. Et vous êtes au Tchad. Aujourd'hui, il y a eu de la transition jusqu'à maintenant, il y a eu assez de frustration des autorités tchadiennes vis-à-vis des autorités de Bamako par rapport à la reconnaissance et à chaque fois qu'un drame intervient dans le cadre des attaques. Est-ce qu'aujourd'hui, le Tchad pardonne ces écarts à Bamako?
Écoutez, moi, je vous me posez une question.
Je demande le sentiment qui prévaut sur place.
Le premier ministre, quand il était de passage à N'Djamena, nous avions très, très mal pris que le Mali ne puisse pas faire une oraison funèbre lors du décès de quand même d'une vingtaine, presque 30 soldats tchadiens à la sortie de comment vous appelez, la première confrontation, véritable confrontation au cœur donc de Sifouras. Mmh. Et donc moi personnellement j'ai interpellé Diongo Sissoko qui était d'ailleurs très très gêné.
L'ancien Premier ministre sous la transition.
Il n'avait même pas donné une seule médaille à nos soldats. Mais je pense qu'entre temps les autorités maliennes ont quand même eu le temps de corriger tout cela. C'est déjà derrière nous. Mais je reviens également à quelque chose que l'un de vos intervenants vient de dire, excusez-moi, je n'ai pas retenu les noms, mais c'est lui qui parlait en fait du fait que les soldats tchadiens soient des cibles indiquées pour leur intervention donc, au Mali. Moi je pense qu'il a raison, je partage entièrement cette analyse. On aurait pu peut-être protéger un peu mieux les soldats tchadiens du moment où aujourd'hui ils sont exposés. Ils sont exposés, je reviens sur le fait que, c'est pas parce qu'ils sont vulnérables comme ça, mais ils sont vulnérables par le fait de la communauté internationale qui laisse les rebelles se promener aux environs du camp sans pour autant que nos soldats ne puissent les interpeller. Parce que quand on laisse les gens de MNLA se promener à Gélok avec armes et bagages, vous pensez qu'on peut faire la différence entre un cousin, un Yagadali qui est en Sardine et son cousin qui est au MNLA? Écoutez-moi. Moi, je trouve qu'il y a un problème. Des fois, on l'a dessus. Et c'est là le véritable problème. Il faudrait qu'on désarme, qu'on donne un mandat net. La MONUSCO a eu un mandat à l'RDC et elle a désarmé les gens. Pourquoi on ne donne pas à la MONUSCO le mandat de désarmer les MNLA? Moi, c'est ça la véritable question que je voulais que les responsables de l'ONU puissent répondre. Et tant qu'on ne désarme pas les MNLA, tant qu'on ne désarme pas le MAA, tant qu'on ne désarme pas tout ce qui dit révèle, les djihadistes vont donc s'infiltrer et commettre le forfait. C'est là le véritable problème. C'est là, moi, mon problème, ce n'est pas le problème de la sécurité d'Aguelov ou de leurs environs. Ce n'est pas une affaire compliquée pour les soldats comme les soldats tchadiens. Mais tant qu'on ne leur dit pas que des civils ne se promènent pas avec les armes, ils ne pourront pas y arriver. Même, je pense, l'armée américaine ne pourra jamais y arriver.
Merci beaucoup, Abdel Nasser Garboua. Je rappelle que vous êtes journaliste tchadien, vous intervenez depuis N'Djamena et vous êtes spécialiste de ce conflit, justement, du Mali. Alors, Ousmane Cornio, est-ce qu'aujourd'hui, on a beaucoup parlé de la révision du mandat de la MINUSMA, est-ce qu'il est envisageable de revoir ce mandat, le rendre plus robuste?
Oui, effectivement, moi, c'est de ce mandat que je voulais parler, dans la mesure où l'armée tchadienne n'existe pas dans le Nord en tant qu'armée tchadienne. Elle intervient au Nord en tant qu'élément d'un tout, c'est-à-dire de la MINUSMA, qui répond aux procédures et aux mandats de la MINUSMA. Moi, je connais le Tchad, j'ai fait le Tchad, j'ai 17 ans. On aurait laissé les Tchadiens, l'armée tchadienne, en tant qu'armée tchadienne, mais elle aurait balayé tout le Nord et puis c'est fini, comme il a dit. Mais ils sont là, ils répondent à des ordres de la MINUSMA. Et la MINUSMA qui donne des ordres en fonction de son mandat, qui fait que le problème, c'est le mandat. Comment peut-on laisser Aguelok? Par exemple, Aguelok, la spécificité d'Aguelok, c'est toute la ville d'Aguelok. À l'intérieur de la ville, ce sont les pro-maliens. Mais dès que tu sors de la ville d'Aguelok, à partir de 2 km, ils sont tous pro-azavagiens. qui fait que l'antagonisme est très très tranché entre l'intérieur de la ville et l'extérieur de la ville. Qui fait que si on doit protéger la zone, il ne s'agit pas de rester dans la ville, il s'agit de sortir. Donc dès que vous sortez, vous trouvez que tout le monde est pro-azawadien. Or, le mandat de l'amnistement ne les permet pas de désarmer ceux qu'ils rencontrent, qu'ils connaissent pertinemment étant des rebelles.
Est-ce que ce mandat aujourd'hui, à l'état actuel, peut permettre aux soldats tchadiens de se défendre contre les attaques, par exemple, des djihadistes?
Oui, ils se défendent. Malheureusement, les attaques dont ils sont victimes, ils n'ont pas le temps de se défendre. Mais sinon, dans la réalité, ils se défendent, ils s'organisent, et quand ils font leur patrouille. Mais la forme actuelle de l'attaque est telle qu'il peut vraiment se défendre.
Alors, cette question, je l'ai posée aux deux autres, mais je ne voulais pas poser. Si aujourd'hui, le Tchad se retirait du nord du Mali, quelles seraient les conséquences?
Oui, pour moi, il ne s'agit pas de la position du Tchad, je dis que le Tchad n'est pas là-bas en tant que Tchad. Et là, en tant qu'un élément de l'aménagement. Et n'importe quel élément de l'aménagement qui serait dans cette position, serait bien, n'existerait que sous les ordres et sous le mandat de l'aménagement. Même si les Tchadiens sont mieux indiqués de par leurs conditions climatiques qui sont les mêmes que chez eux. Mais on retirait le Tchad pour les mettre un peu plus au sud. Et on mettrait d'autres personnes.
Vous pensez que ça pourrait stabiliser un peu la zone?
Bon, au moins, le courroux que les gens ont contre l'armée tchadienne va diminuer dans la mesure où ils ne seront pas dans les zones où ils avaient combattu. Ça, c'est un. Et puis, de deux, les nouveaux qui vont arriver, bon, ils auront besoin de la protection qui a manqué aux Tchadiens. Ça, il le faut.
Okay. Alors, les groupes armés engagés dans le Nord, les groupes rebelles, parmi ces groupes, il y a un groupe qui se réclame des Arabes. Aujourd'hui, nous avons le représentant de la jeunesse arabe du Mali, Sidi Ould Bagna. Vous représentez les jeunes arabes du Mali. Est-ce que aujourd'hui, on peut incriminer l'opération Barkhane pour n'avoir pas suffisamment exercé son rôle dans le Nord?
Bon, je crois que c'est vous avez posé deux questions au même moment. Je crois que vous avez parlé d'abord du mouvement arabe de l'Azawad, qui est aujourd'hui un mouvement armé, qui se réclame aujourd'hui, qui a deux bras, un bras avec la coalition du HCIA et du MNLA, et avec le CMPFR2, et un autre bras avec le CMFR tout court, et puis la CPA. Bon, ça, c'est vraiment les mouvements armés qui se sont constitués. Le Mali est devenu à un moment donné un fortuit, pour que les gens ont créé tout ce qu'ils ont à créer, mais nous sommes la jeunesse arabe de la société civile. Nous ne nous réclamons pas de ces mouvements armés. Nous sommes tout court des Maliens, des patriotes, et puis on se réclame de cette patrie, et jusqu'à preuve du contraire. Pour de revenir à la deuxième question, quand aujourd'hui à l'opération Serval qui a été recyclée à Barkhane, pour dire qu'aujourd'hui je ne sais même pas pourquoi il y a munissement et puis il y a Barkhane. Je ne sais pas, je me pose chaque fois la question.
Quelle est la meilleure formule selon vous?
La meilleure formule, je crois que tout le monde se mette sous mandat de l'ONU. Je crois que s'il n'y a pas quand même des calculs d'angle sous roche, s'il n'y a pas de calcul, moi je crois que tout le monde doit se mettre sous le mandat. Mais aujourd'hui, comme vous l'avez dit, les mouvements, on ne peut pas faire la différence entre les gens. Aujourd'hui, on dit, OK, Barkhane, Serval, nous, notre souci, ce n'est pas les Maliens, les rebelles, les séparatistes, mais les terroristes, des fois, ils ont multiples visages. Il suffit de prendre un véhicule, de mettre le drapeau du Yémen là, tu passes inaperçu. Et tu peux même rentrer dans un camp de l'aménagement, parce que tu as le drapeau de... Et je crois qu'on ne peut pas, on n'a pas identifié les gens pour leur donner quand même des cartes dentées. Pour dire que bon, celui-là, il est du mouvement arabe ou il est du CMPFR, il est armé. Mais moi, je crois qu'il y a eu trop de confusion c'est cette confusion qui crée en sorte que nous, on ne comprenne pas. Et ceux qui sont sur le terrain ne comprennent pas. Et les Tchadiens, pour ceux qui les connaissent, pour tout ce qu'ils ont eu à faire, c'est des gens qui travaillent parmi toutes les forces étrangères qui sont arrivées au Mali. Il n'y en a pas comme les Tchadiens. Nous avons pris toutes les autres communautés qui sont arrivées au Mali. On a vu à Tombouctou, à Gao, ce qu'ils sont venus faire, et non pas sécuriser et aller au fond du désert pour chercher les terroristes.
Oui, mais à rappeler juste cette parenthèse, que les différents contingents de la MINUSMA évoluent en faisant d'autres choses. Il y a la formation des policiers qui est en cours ici, et ceci est fait par les contingents venus du Sénégal, par exemple.
Oui, mais nous, aujourd'hui, c'est la sécurisation. Le plus important, c'est la sécurisation du Nord. Et le Nord est extrêmement, extrêmement vaste. Vaste et vide. Aujourd'hui, si tu vois le Nord, on a les deux tiers du territoire n'a jamais connu des emblèmes de l'État. Vide comme l'air.
Nous allons observer quelques secondes de pause juste avant de clore cette émission et de partir avec la troisième partie du débat. Quelques secondes de pause.
Réaction.
Un avis.
Un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Voilà, réagissez donc au contenu des productions ici au Studio Tamani sur notre page Facebook Studio Tamani et également sur notre site web www.studiotamani.org. Alors, nous sommes à la troisième et dernière partie de cette émission avec cette question: comment rétablir la sécurité dans les villes du Nord? Nous avons comme invité Sidi Ould Bagna, président de la jeunesse arabe du Mali, Ousmane Cornio, spécialiste des crises et conflits, Abdel Nasser Garboa, journaliste tchadien, spécialiste du Sahel. Alors, juste avant de partir avec cette troisième partie, cette question qui reste en suspens, Monsieur Garboa, vous êtes journaliste, vous intervenez depuis N'Djamena au Tchad. Est-ce que vous comprenez la méthode aujourd'hui employée par Barkhane qui ne fait pas tâche jusqu'à présent, quand on voit ce qui se passe dans le Nord?
Non, en fait, moi, je n'aime pas vraiment m'étaler sur le projet des Français et autres, parce que je suis pleinement panafricaniste, et je me dis qu'il est du devoir des Africains de se prendre en charge eux-mêmes. Donc, si les Français et leur armada viennent se balader en Afrique, en mettant des opérations culturelles selon les objectifs qui sont propres à eux, ça n'engage que. Moi, je n'ai pas, si ça ne tenait qu'à moi, je demande purement et simplement leur départ de l'Afrique. Par contre, je pense qu'il est du devoir donc des Maliens, donc des autorités maliennes, et je salue là au passage, hein, sans faire la publicité, le Premier ministre Moussa Mara, qui était le seul officiel d'ailleurs malien qui m'a reçu quand j'étais parti au Mali en novembre, parce que je voulais faire une exposition sur l'intervention tchadienne au Mali. À l'époque, il était ministre, je pense, de l'urbanisme ou un truc comme ça. Il m'a reçu et on a discuté. J'ai trouvé qu'il était un Africain. Il est vraiment soucieux du nord du Mali. Et voilà, donc je pense que, et j'ai beaucoup apprécié également, malgré tous les critiques qui s'en ont suivi, son acte vraiment d'engagement sur le terrain et vraiment...
Nous sommes sur Barkhane, M. Garboa.
Pardon ?
Nous sommes sur Barkhane.
Voilà, bon, en fait, moi, Barkhane, ça ne m'intéresse pas, franchement. Je n'ai même pas envie de parler de Barkhane. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Pour moi, Barkhane peut même quitter l'Afrique, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il faudrait que les Maliens et les Africains puissent s'engager véritablement pour mettre la sécurité chez eux. Moi, sur ce point, je suis vraiment catégorique, monsieur. Je suis désolé. Hein. Je n'ai même pas envie de commenter ce
merci.
Que Barkhane fait.
Merci. Merci, Garboa. Nous vous comprenons. Merci beaucoup. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Alors, Ousmane Cornio, un mot sur l'opération Barkhane avant de continuer.
Oui, je crois que mon collègue, le président de la jeunesse arabe, il a touché le problème. Moi, personnellement, je me posais la question de savoir... cette duplicité entre c'est-à-dire que la présence de l'opération Barkhane et puis encore la MINUSMA. Parce qu'en fait, l'opération Serval...
Barkhane qui s'étend sur tout le Sahel. Hein.
Voilà. L'opération Serval, quand on reconnaît ça, son mandat, c'est la stabilisation. Il ne peut pas avoir de stabilisation sans la lutte contre le terrorisme. Parce que ceux qui déstabilisent, ce n'est pas forcément les rebelles. Et ce sont les narcotrafiquants, ce sont les terroristes. Alors maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'on défalque du mandat de l'AMINUSMA la lutte contre le terrorisme et on donne ça à Barkhane. Or, si je comprends très bien, moi je suis du sentiment de croire que ceux qui sont en train d'attaquer les Tchadiens, ce ne sont pas les rebelles, ce sont les terroristes. Et donc, ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui a failli, c'est Barkhane qui a failli. Qui fait que si le mandat de Barkhane, c'est-à-dire la lutte contre le terrorisme, était intégré au mandat de l'ONU, de l'AMINUSMA, et que pendant que certains essaient de stabiliser, d'autres luttent contre le terrorisme, je crois qu'on aura un mandat global qui permettra et de stabiliser et de lutter contre le terrorisme.
Donc vous pensez qu'il y a un écart aujourd'hui entre les deux forces?
Il y a un écart, absolument il y a un écart, et c'est cet écart que je
Que fait Barkhane alors?
Mais Barkhane, ils disent, bon, écoutez, ils sont là pour lutter contre le terrorisme dans toute la région. Le terrorisme, ce sont ces narcotrafiquants, ce sont ces preneurs d'otages.
A-t-on déjà enregistré un résultat depuis que Barkhane est Barkhane?
Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je crois que depuis qu'on a, précisé leur mandat, et, parce qu'avant, ils travaillaient avec l'opération Serval. L'opération Serval travaillait avec l'AMINUSMA. Et il y avait des résultats. Mais depuis qu'ils se sont détachés de l'opération de MINUSMA pour essayer de se spécialiser dans la lutte contre le terrorisme et l'extension de leur zone de couverture jusqu'au Tchad, et bien, moi je crois qu'ils se sont dispersés. Or aujourd'hui au Mali, on n'a pas besoin de se
dispersés. Les efforts ont été éparpillés.
Éparpillés, voilà. Et puis les services dont la MINUSMA a besoin aujourd'hui pour sécuriser ses propres troupes, ils sont attribués à Barkhane et qui ne fait pas ce travail.
Alors, Sidi Ali Ould Bagna, président de la jeunesse arabe du Mali, pensez-vous qu'on puisse sécuriser aujourd'hui les régions du Nord
Absolument. Pour moi, je crois que j'ai déjà abordé dans ce sens un peu. Et aujourd'hui, sécuriser le Nord, oui, on peut sécuriser le Nord. Mais comment il faut aujourd'hui sécuriser le Nord quand on a l'armée d'abord qui c'est vraiment ses fonctions régaliennes de pouvoir rassurer les populations et être à leur côté et déjà contraint de se mettre dans un camp et se fermer quand on voit d'autres qui viennent faire ton travail à ta place. Il est difficile qui n'a pas pu se familiariser avec les populations viennent plutôt dans d'autres calculs dans la tête. Moi, je me pose la question comment on peut vraiment sécuriser les nords. D'abord, les grandes villes, à forte priori, les deux tiers qui ne sont pas occupés. Aujourd'hui, c'est pour cela que nous avons dit dans un moment donné, on dit, les terroristes, leur QG, c'est dans les régions du nord, et surtout dans la région de Tombouctou. Et il a parlé un peu de ça, effectivement, c'est chez moi. Moi, je suis de la région de Tombouctou, où vous avez encore une seule commune qui fait à peu près 190 000 km², plus que le Sénégal, où il n'y a qu'un seul village ou deux villages, avec 80 personnes, 100 personnes comme habitants. Je me pose la question, comment on peut, quand l'État n'est pas présent, quand on ne crée pas les conditions pour que l'administration puisse s'étendre sur tout le territoire, au lieu de crier l'intégrité du territoire, moi je crois que quand tu fais l'aspect sur la population, pour avoir les populations, les intégrer, les mettre sur tout le territoire, tu n'as même pas besoin de crier haut et fort l'intégrité du territoire, tu l'as automatiquement, parce que tu as les populations.
Alors, Abdel Nasser Garboua, vous êtes journaliste tchadien, vous intervenez depuis N'Djamena, vous êtes spécialiste du Sahel. Quelle sera la responsabilité de la communauté internationale si cette zone du Sahel devient instable dans la durée pour les populations civiles ?
je pense que la communauté internationale va se mordre les doigts. Elle aura la pleine responsabilité de tout ce qu'il y a du MK dans cette partie du nord du Mali, donc dans cette partie du continent africain. Et je pense que la déstabilisation permanente de cette zone aura une répercussion immédiate dans le reste de l'Afrique. Si vous me permettez, actuellement, ce qui se passe au Nigeria, je pense que vous n'êtes pas sans ignorer que les forces camerounaises ont annoncé avoir trouvé le corps de deux Touaregs au sein de troupes de Boko Haram qui sont tués. Et donc, voilà, ça veut dire que c'est une internationale, cette zone qui fait jonction avec la Libye, pourra donc permettre à ce que les armes transitent et venir plus au sud et déstabiliser un peu l'ensemble de la zone du golfe de Guinée jusqu'à l'Afrique centrale. Donc moi, je pense que la communauté internationale porte une très grande responsabilité et il est de son devoir d'aider l'armée malienne, parce que je pense que toute opération doit se faire avec l'armée malienne, donc d'aider l'armée malienne à prendre le dessus. Et ça, c'est avec le renforcement, moi je pense, de la mission de la MINUSMA, qui doit avoir une mission vraiment très offensive et qui va jusqu'à désarmer tout ce qui est force non régulière dans cette partie du Mali.
Alors, il y a cette actualité. Merci beaucoup, Abdel Nasser. Vous intervenez depuis le Tchad. Merci de rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Alors, Ousmane Cornio, il y a cette dernière nouvelle. Le meurtre aujourd'hui du Français qui a été enlevé dans le sud algérien. Est-ce que cela pourrait remettre en cause l'action de la France dans le Sahel?
Ben, je ne pense pas à écouter les autorités françaises, je ne pense pas, dans la mesure où la position de la France, ce n'est pas une position seulement pour le Mali, c'est une position pour toute la région, c'est une position politique. Et elle a été mûrement et réfléchie. Et la France devait s'y attendre. Et je pense que ce meurtre n'est pas consécutif à leur positionnement en Afrique, comme ils l'ont dit. Le monsieur a été enlevé en réaction, en réponse au bombardement de la France
en Irak.
Donc la position globale de la France face au terrorisme, et c'est ça, je pense pas que ça change quelque chose. Mais moi, ce que je pense, si je veux juste renchérir une minute, c'est-à-dire que la solution aujourd'hui, la présence des armes dans le nord, dans le Sahel, est aujourd'hui à un point tel que tant que on ne met pas fin à ça, toute autre mesure qu'on prendra, 10 fois l'aménagement, et on ne changera rien.
C'est-à-dire désarmer...
Il faut désarmer systématiquement tout le monde, tous les groupes armés, toutes les populations civiles. Et je crois que si on donnait le mandat à l'aménagement et à l'opération Serval de désarmer tout le monde, je crois qu'on aura trouvé une piste de solution. Mais les négociations...
Quelles peuvent être les conséquences de ce désarmement?
Oui, les conséquences du désarmement, c'est qu'en fait, ceux qui vont rester armés sont ceux qui pourront être officiellement armés, c'est-à-dire les forces armées. Et s'il y a des groupes armés...
Vous craignez pas un dérapage?
Non, je ne pense pas. Moi, je ne pense pas. Je crois que c'est là qu'il faut prendre le taureau par les cornes. Et c'est cette corne-là qu'il faut prendre.
Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Nous allons tout juste demander à Abdel Nasser Garboua, journaliste tchadien spécialiste du Sahel. Vous intervenez depuis le Tchad. Monsieur Garboua, aujourd'hui, à l'heure actuelle, quel est le sentiment des Tchadiens vis-à-vis des Maliens et de l'engagement des troupes tchadiennes au Mali? En deux mots, s'il vous plaît.
Vis-à-vis des Maliens, les Tchadiens sont vraiment très contents parce qu'ils ont senti à tous les niveaux le soutien des Maliens, la salve d'applaudissement que la communauté malienne a réservée à notre président de la République au stade de Bamako. C'était vraiment un signe évident de ce que le peuple malien, hein, parce que je parle vraiment du peuple malien, a fait. Parce qu'en ce moment, c'était une sortie, on sortait donc de tout ce que le président Diokunda et son équipe ont vraiment fait ce qu'ils n'ont pas pu faire aux Tchadiens, donc c'était ça. Et tout récemment également, on a un de nos compatriotes qui a assisté au forum de jeunes qui a été ovationné et tout ça. Nous, ici, on a des retours et on sait que le peuple malien, moi personnellement, j'ai été témoin quand j'étais arrivé à Bamako en novembre. Dès l'aéroport, on m'avait accueilli comme un vrai fils du terroir.
Merci.
Et donc vraiment vis-à-vis de Malien, on est très content.
Merci.
On est très très content.
Merci beaucoup. Mais nous restons sur cette note très joyeuse que nous dit Abdel Nasser Garboua. Je m'excuse de vous interrompre, mais malheureusement nous n'avons plus de temps. Ce débat est terminé. Il parlait du regain de violence dans le Nord avec cette spécificité pour la ville de Hagelhoek. Nous avions eu à débattre sur trois thèmes aujourd'hui. Nos invités, Sidi Ali Ould Bagna, président de la jeunesse arabe du Mali, Ousmane Cornio, spécialiste des crises et conflits dans le nord du Mali, Abdel Nasser Garboua, journaliste tchadien, spécialiste du Sahel. Merci à vous, messieurs, pour votre disponibilité. Je suis Famoussa Sidibé. Salim Djouara était à la technique. Ousmane Diadié Touré a réalisé cette émission. Nous vous disons à demain pour un autre débat.
Grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edowani wa Makaran.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenibiro.
Halud Mauni.
Chenibiri. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.